philosophy première par le Père Marie Dominique Philippe, le 14 novembre 2001 à Saint-Judas.
Il y a toute une série de questions. C'est très bien. La réponse aux questions fait partie du cours. Pour saisir mon « je suis », je n'ai pas besoin de me référer à un raisonnement. C'est le cogito ergo sum. Ah, il y a quand même un raisonnement. Cogito ergo sum. Est-ce parce que cette connaissance de je suis est évidente, immédiate? Oui. Vous voyez, Descartes a dit cogito, c'est pas le je suis. Descartes met l'intelligence avant l'être. Vous voyez bien la différence. Hein. Mettre l'intelligence avant l'être, c'est justement la position de l'idéalisme. Alors, l'être devient relatif à l'intelligence. Et ça ne va pas parce que l'intelligence est ordonnée à l'être. Donc vous avez juste l'inverse. Maître, je pense, je. Le que je suis. Le je suis. Vous avez l'évidence je suis. Je crois. Sans raisonnement. Vous ne passez pas par le cogito. Je suis, c'est une évidence. Que vous pensez pour dire je suis, c'est sûr, c'est dans la pensée que vous découvrez le je suis. Ce qui est normal, puisque ma pensée est tout ordonnée à l'être. Dire que ma pensée est tout ordonnée à l'être, ce n'est pas dire que ma pensée est première. C'est l'erreur de Descartes. Vous voyez, là, c'est très important, ça. Arriver à saisir ça. C'est simple, puisque vous partez de quelque chose dont vous avez l'évidence. Je crois que vous avez tous l'évidence que vous existez. J'aimerais savoir si parmi vous, il y en a un qui n'a pas l'évidence de ce que je suis, de son existence. Alors ceux qui me l'écrivent, qui me le disent. Parce que vous pouvez vous taire et dire, mais non, je n'ai pas l'évidence de ce que je suis. Alors vous avez l'évidence de quoi? Ceci est, vous avez l'évidence. Et ceci est, et il y a parmi les êtres qui existent, il y en a un dont vous avez l'évidence aussi. J'avais l'évidence que le crapaud existe. Quand vous voyez un crapaud, vous dites « il est ». Quand vous vous voyez, vous dites « je suis ». Sans que ce soit un crapaud. Essayez de comprendre ce que c'est que l'évidence. C'est l'affirmation dans une proposition du prédicat par rapport à son sujet. Une affirmation directe, immédiate, sans intermédiaire. Le sujet contient l'affirmation que vous donnez. Le « je suis » contient l'évidence, contient l'être. Je vous ai dit au début, je le répète toujours chaque année, parce que c'est très important, vous avez le jugement d'existence « ceci est » et puis vous avez ce jugement d'existence « je suis ». Comparez ces deux jugements, dans le ceci est, le ceci est tout entier absorbé par l'existence. Et vous mettez tout l'accent sur l'existence. Dans je suis, l'existence est tout entière. En référence avec je. C'est le je, moi, qui absorbe l'existence. Et l'existence est en référence à moi. C'est pour ça que si je commence ma philosophie par le je suis, c'est moi qui deviens la mesure de toute chose. Mais vous pouvez commencer votre philosophie par ceci. Vous découvrez la substance comme principe formel selon la forme de ce qui est. Et vous pouvez, quand vous essayez de comprendre ce que c'est que la personne, c'est vous. Vous avez l'avantage, quand vous étudiez une personne, que vous avez l'objet que vous étudiez tout près de vous. Vous existez. Ah, c'est vrai. Et alors, je reviens, je suis. Et quand je regarde la philosophie et le développement de la philosophie, je vois qu'en effet, la philosophie commence par ceci est, parce qu'elle s'ouvre à tout ce qui existe. La philosophie ne commence pas par ce qui est possible. Les mathématiques commencent par ce qui est possible. Et elles restent impossibles. Les mathématiques n'atteignent pas ce qui est. Elles atteignent le possible. L'être mathématique fait partie du possible. C'est la très grande différence. Vous commencez par ce qui est, ceci est. Et vous essayez d'étudier toutes les manières dont vous pouvez regarder, dont vous pouvez regarder ceci est. Et vous avez alors, en premier lieu, d'une certaine manière, je suis. Parmi l'affirmation de ceci est, vous avez une affirmation qui a un caractère tout à fait particulier. Quand vous dites je suis, voyez la différence qu'il y a entre ceci est et je suis. C'est capital. Voyez par le fait même la différence d'une philosophie qui commence par ceci est, et une philosophie qui commence par le je suis. Donc, voyez, c'est la question de l'ordre, là. Qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que c'est ceci est ou je suis ? Si vous commencez par le je suis, vous vous enfermez en vous-même. Et je dis bien, au point de vue métaphysique, vous vous enfermez en vous-même. Tout existe en fonction de vous. Il y a un égocentrisme métaphysique extraordinaire quand on commence à métaphysique par je suis. Or, tout l'idéalisme commence par je suis. Tout ontologisme commence par je suis. Toujours. Vous avez donc quelque chose de très important à noter et à comprendre. Il y a la philosophie du je suis et la philosophie du ceci est. Et vous prenez la philosophie de ceci est, parce que ceci est, c'est toutes les réalités existantes. Le philosophe s'intéresse à tout ce qui existe, à tout ce qui est. Tandis que de l'autre côté, vous vous intéressez en premier lieu à « je suis ». Et tout est en référence à ça. Donc, au fond, vous avez là deux types de philosophie. L'une qui regarde l'être de tout ce qui est, l'existence de tout ce qui est, et l'autre qui regarde avant tout moi, je suis. Alors, on y revient toujours là-dessus. Hein. Il faut comprendre que les philosophies européennes, depuis la Grèce jusqu'à nos jours, oscille entre ceci est et je suis. Vous dites que la substance est principe selon la forme de ce qui est. Mais parfois vous dites aussi qu'elle est principe formel. Bon, principe selon la forme, principe formel. Principe selon la forme est plus précis. Principe formel, c'est tout simplement le petit raccourci, la cause formelle. Si la première formulation est plus précise, je pense, le fait que vous utilisez aussi la deuxième ne manifeste-t-il pas la difficulté que nous avons à trouver les mots justes pour désigner, on en est conscient. Si j'en étais pas conscient, oui, je comprends. Mais on en est conscient. On dit, on doit dire principe selon la forme. Et puis, quand on parle rapidement, on peut dire principe formel. Oui. La philosophie n'est pas au niveau du langage. Faites attention. Ne prenez pas le langage comme l'absolu. Si vous prenez votre langage comme l'absolu, ah, vous vous enfermez dans votre sujet. Voyez ? C'est très typique, ça, cette objection. C'est que vous considérez le langage comme l'absolu. Le langage est un moyen de transmission. Bon, alors, dans le moyen de transmission, les moyens, ben oui, il y a des raccourcis. Le tout, c'est d'arriver au même but. C'est évident, ça. Et le langage n'est pas objet de la métaphysique. L'objet de la métaphysique, c'est la substance. Je dis la substance, principe formel, principe selon la forme. Très bien. Alors, voyez, le fait que vous utilisez, c'est votre manière de critiquer cela, où je dis, on voit que vous considérez le langage comme la philosophie. Eh bien, c'est pas juste. Le langage me permet de transmettre, il suffit de s'entendre, il suffit de demander, est-ce que vous dites la même chose quand vous dites principe formel ou principe selon la forme? Je dis oui. Mais j'aime mieux dire principe selon la forme. Le fait que vous utilisiez aussi la deuxième ne manifeste-t-il pas, alors c'est là où je ne suis pas d'accord, ne manifeste-t-il pas la difficulté que nous avons à trouver les mots justes? Là, je suis d'accord que c'est difficile de trouver les mots justes, mais on en est conscient. Pour désigner la substance, qui est à la fois la détermination radicale de la réalité, et à la fois la source de toute détermination. Mais ça peut être les deux. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle soit source de toutes les autres déterminations? Votre âme est source de toutes vos déterminations. Il y a les sources de la détermination de l'intelligence et de la volonté. Et je ne vois pas de difficulté à ce qu'elle soit la source et qu'elle soit les effets de la source. Qui dit source, nécessairement, est principe de tout ce qui vient après. Alors je peux ou regarder ce qui vient après, ou la regarder en elle-même, de considération. Mais je touche la même réalité. La substance est principe. Voilà. Bon, le principe, qui dit principe, dit toujours d'être premier par rapport à ce que c'est second. Je crois. Qui dit principe, dit principe, premier. Il est premier. Donc, ce qui est second est relatif à lui. Et je peux regarder ce qu'est second relatif à lui pour exprimer toute la richesse de ce principe. Et puis je peux le considérer en lui-même. Donc, ces deux considérations vont justement, qu'on dit principe formel, principe selon la forme. Ça montre bien les deux. Et la substance, votre âme, puisque pour parler plus concrètement, votre âme est votre substance. Bon. Puisque votre âme est votre substance, toutes vos déterminations, même la couleur de vos cheveux, dépendent de l'âme. Avec des intermédiaires, le corps. Si mon corps est informé par l'âme, ben, l'âme agit sur tout. La figura extérieure que je vois dépend de mon âme. Le principe, c'est ça qui est important, le principe est source de tout. Et la négation de l'âme fait qu'on reste uniquement en face des conséquences. Mais, donc, il y a deux manières où j'insiste plus sur la source en elle-même, ou j'insiste sur la source relative à ses effets. Peut-on dire que la substance est un être ayant son autonomie dans l'ordre de l'être? Attention, la substance, elle est principe de l'être. Donc, elle est principe de l'être. Elle est, par rapport à l'être, ce qu'il y a de premier. Principe, princeps, premier. Mais l'être se dit aussi des accidents. Mes cheveux existent. Ils sont un être assez inférieur. Mais, sauf pour certaines personnes, où les cheveux expriment toute leur dignité. Bon, alors c'est autre chose. C'est pour ça qu'on met un voile. Pour montrer qu'on cache sa dignité, on cache ses cheveux, et tout est pour Dieu. C'est vrai, vous voyez, vous avez des chevelures de lionne. Bon, ça ne me gêne pas de voir une chevelure de lionne chez le lion, mais ça me gêne de voir une chevelure de lionne chez une femme ou un homme. Ça exprime tout de suite quelque chose de très significatif Et ils ont fait l'expérience et vous voyez qu'en effet, ça exprime quelque chose de très significatif. On met toute son intérêt, toute son attention à l'exprimer extérieur. Et, alors que la substance est intérieure, votre âme est intérieure. Alors, où vous avez le souci que l'intérieur soit propre, où vous avez le souci que ce soit uniquement la manifestation. Il y a deux spiritualités différentes. La spiritualité de la manifestation. Or, aujourd'hui, on est très en présence de la manifestation. Tout doit se manifester. Et quand ça ne se manifeste pas, ça prouve que ça n'existe pas. Très facilement aujourd'hui, on met l'existence des choses dans leur manifestation. Alors que l'âme est tout intérieure. La manifestation de votre âme par vos yeux, c'est mieux que vos cheveux, hein. Par vos yeux. Mais c'est la manifestation, mais c'est pas votre âme. Elle peut regarder quelqu'un des yeux éclatants. Oh, c'est extraordinaire. Elle a une âme. Mais non, elle a des yeux éclatants. C'est différent, c'est pas son âme. Vous voyez, on fait le glissement très rapide, et dans le langage, ça se voit, ça. Et le langage exprime très souvent ce qu'on pense, ce qu'on est. On passe très facilement de la chose intérieure cachée du principe. Le principe y premier. Vous n'avez jamais touché un principe. Donc, il ne se manifeste pas. Il est source de la manifestation. Mais ce qui se manifeste n'est pas le principe. Vos cheveux manifestent quelque chose, mais ne sont pas votre âme, ne sont pas votre intelligence, ne sont pas votre amour. C'est très curieux et c'est très intéressant de voir la différence entre être et manifester l'être. La manifestation est toujours seconde. Elle n'est jamais première. Alors, je reviens sur la question. Peut-on dire que la substance est un être ? On peut dire qu'elle est principe de ce qui est. Et par le fait même, elle est. Alors, elle est un être. Ce n'est pas ce que vous entendez par ayant. Elle est un être ayant son autonomie. Ah ! Est-ce que la substance a son autonomie ou est-ce qu'elle est source d'autonomie ? Ce qui est source d'autonomie est autonome. Mais, encore une fois, la source d'autonomie se manifeste. La substance ne se manifeste pas par l'autonomie. Elle est source. Alors, à ce point de vue-là, elle se manifeste en tant qu'elle est source. Elle se manifeste par l'autonomie, mais la substance est plus que l'autonomie, puisqu'en est le principe. Ce qui est principe de quelque chose est plus que ce quelque chose. Il est à l'origine. Être au principe, ça veut dire être à l'origine. Alors, si vous identifiez manifestation et source, vous pourrez dire que la substance est autonome. Mais c'est plus juste de dire la substance est source d'autonomie. Ayant son autonomie dans l'ordre de l'être. Elle est source de l'autonomie dans l'ordre de l'être. Grâce à la substance. tandis que l'accident n'est pas source d'autonomie dans l'ordre de l'être. Alors, ce qui est source d'autonomie dans l'ordre de l'être est indépendant des autres. Par votre substance, par votre âme, vous êtes autonome de votre voisin. Mais si votre voisin est très gros, énorme, qui prend la place de deux chaises, quand on est dans l'avion, on comprend ça. Quand on a des voisins qui sont des tours ambulantes, alors vous êtes à côté pendant tout le voyage, vous faites attention. Ça arrive, ça. Parce que vous n'avez pas choisi vos places. Si vous aviez choisi, vous auriez fait le détour. Hein. Mais vous n'avez pas choisi. Tiens. Et vous ne pouvez pas dire, en prenant le billet, surtout ne me mettez pas à côté de la tour ambulante. Parce qu'il y a toujours, dans tous les voyages, une tour ambulante. Ça vous a fait penser à... au sermon d'un prédicateur, c'était un dominicain, très réputé comme prédication. Mais il y avait quelqu'un qui arrivait en retard et qui avait ses chaises recommandées devant. Et quand elle passait, c'était vraiment, surtout les modes de ce temps, qui étaient particulièrement occupants. Alors, le prédicateur s'est arrêté. J'attends que la tour s'arrête et s'installe. Là, tout le monde a regardé la tour ambulante. Non, ce n'est pas à faire hein, comme prédication. Mais ça montre bien ce que représente l'autonomie. Quelqu'un qui a une tour ambulante, il a son autonomie. Il n'en peut rien, il est énorme. Alors, on fait attention de ne pas arriver en retard. C'est la seule chose qu'on peut faire. Parce que ça fait un déplacement. Donc, vous voyez bien la différence entre source, principe et l'effet. L'autonomie comme telle, qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? L'autonomie, c'est pas un principe, c'est relatif aux autres. La substance n'est pas relative aux autres. La substance, elle est principe, elle est première, elle est... Elle ne se définit pas par rapport aux autres. Les autres sont relatifs à elle. C'est peut-être ça qu'il faut mieux comprendre. Autonomie, c'est n'être pas dépendant des autres. Vous êtes autonome. Vous n'êtes pas dépendant des autres. Et vous jouissez de votre autonomie quand, exprès, vous ne faites aucune attention aux autres. Alors vous jouissez de votre autonomie. Et c'est, moralement, c'est pas bien de jouir de son autonomie. Mon père, quelle différence peut-on faire entre l'autonomie substantielle, décidément, on revient sur l'autonomie, hein, entre l'autonomie substantielle de la personne et son autonomie psychologique ? Alors, quelle différence y a-t-il entre la psychologie et la métaphysique ? C'est évidemment très important pour nous. Quand je fais la philosophie de la personne au plan métaphysique, je ne la fais pas au niveau psychologique. Mais on peut, et même aujourd'hui, c'est nécessaire de montrer la différence de l'autonomie au niveau métaphysique et l'autonomie au niveau psychologique. La métaphysique est au niveau de l'être. La psychologie, à quel niveau est-elle ? Alors, vous dites tout de suite, elle est au niveau de la vie. Je ne parle pas de la psychologie au niveau de l'être, mais au niveau de la vie. Au niveau de mes opérations vitales. Et au niveau de mes opérations vitales, en ce sens que je les considère relativement à moi-même. Et je dirais psychologiquement que j'ai de la peine à me relever quand je suis assis, parce que je vieillis. Bon, cette peine est psychologique, est en référence avec moi. Je ne dirais pas que c'est métaphysique. Au point de vue métaphysique, on ne vieillit pas. Au point de vue psychologique, on vieillit. Ah, c'est peut-être ça qui fera comprendre le mieux. Au point de vue métaphysique, on ne vieillit pas. On est au niveau de l'être. Et mon âme est immortelle. Alors elle vieillit quant à mon corps, mais c'est secondaire. Pas ma substance. Mon âme ne vieillit pas. Mon âme se rajeunit. Puisqu'elle s'actue de plus en plus. Et plus elle s'actue, plus elle est autonome. Et c'est vrai. Au début, je suis très dépendant. Un petit enfant, il est complètement dépendant. Tandis que psychologiquement, je me regarde moi-même en fonction des autres. Au point de vue métaphysique, je me regarde quant à mon être. Donc la psychologie est au niveau vie, pas au niveau être. Première distinction, capitale. Capitale. Je fais une différence en philosophie, à ce que c'est la philosophie du vivant et la métaphysique. J'étudie mon intelligence au niveau de la philosophie du vivant et j'étudie mon intelligence au niveau métaphysique. Et je dois m'habituer à ça. C'est le propre de la philosophie de distinguer entre être et vie. Et la grande erreur moderne, c'est de confondre être et vie. Mais il ne faut pas oublier, hein, c'est la grande erreur de Feuerbach, qui est le philosophe de l'athéisme. Parce que pour Feuerbach, je dois être indépendant dans ma vie et donc mon être doit être indépendant. Il faut supprimer Dieu pour avoir mon être parfait, complètement autonome. Donc la grande erreur moderne, c'est la confusion entre être et vie au point de vue philosophique. L'ontologisme, c'est consiste à confondre les deux. Les quantités de système confondent les deux. Et c'est la première distinction qu'on doit faire quand on se met à lire un livre qu'on dit philosophique. Distingue-t-il l'être et la vie ? On peut faire ce jugement assez rapide. Bon. La psychologie, je peux regarder la vie philosophiquement et psychologiquement. regard psychologique sur la vie est en référence avec ce que je suis. Mon regard philosophique sur la vie est en référence avec mon âme. Au point de vue psychologique, je ne peux pas atteindre mon âme. Je dirais tout simplement, il y a des opérations où je suis responsable et des opérations où je ne suis pas responsable. Ce sera la grande distinction. Mais la distinction plus profonde, c'est de voir, suis-je principe de cette opération ou non ? Donc vous voyez, il y a une distinction toujours plus profonde. La psychologie fait des confusions quand je suis uniquement en psychologie. Puisque je ne vois pas ces distinctions, j'en fais donc les confusions. La psychologie confond constamment vie et être. Ça va très loin, ça. Au point de vue de l'être, vous êtes radicalement dépendant de Dieu. Au point de vue de la vie, vous devez avoir votre autonomie. C'est bien évident. Alors si vous confondez les deux, vous voulez avoir votre autonomie dans l'être. Donc, ne regardons pas Dieu. Ne regardons pas la création. La création est au niveau de l'être, pas au niveau de la vie. C'est Maître Eckhart qui dit « Dieu n'a pas créé la vie ». Alors on dit « c'est le grand scandale, Dieu n'a pas créé la vie ». Mais Maître Eckhart parle tout à fait formellement « le vivant, c'est celui qui se meut ». Alors en tant qu'il se meut, c'est lui-même qui est principe. Et c'est pas le principe qui vient d'en haut. Il a raison de dire ça. Ne le répétez pas, surtout, parce que ça scandalise. Quand vous dites « Dieu ne crée pas la vie », Dieu crée des êtres vivants. C'est pas la même chose. Hein. La création regarde l'être. Elle ne regarde pas le vivant. Alors Maître Eckhart parle avec une force très très nette, netteté très grande. Et on peut dire ça, Dieu ne crée pas la vie, il crée des êtres vivants. Alors on va dire, ah c'est la même chose, dans les êtres vivants il crée donc la vie. Ah non, l'être vivant est autonome dans sa vie, il se meut. Le vivant c'est celui qui se meut. La vieille définition d'Aristote reste toujours vraie. Il se meut. Il est source de ses opérations en tant que vivant. Mais en tant que créature, il est dépendant de Dieu. Ah, vous voyez, confusion d'être et de la vie. Si nous ne distinguons pas l'être et la vie, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas saisir ce qu'est la création. Dieu crée mon âme comme source de mon être qui s'exprime dans ma vie. Mon être s'exprime dans ma vie. Je dis couramment, je suis autonome dans mon être parce que je suis autonome dans ma vie. Parce que vous n'êtes pas autonome dans votre être. La preuve, c'est que vous ne savez pas quand vous mourrez. Et vous ne mourrez pas parce que vous acceptez de mourir. La vie vous échappe. Votre être vous échappe. Votre vie, ah, elle dépend de vous. En partie. Pas totalement, mais elle dépend de vous en partie. Vous pouvez mener une vie impossible qui fera que ce sera très vite terminé. Vous pouvez au contraire faire attention à votre vie, au développement de votre vie, vous ne faites pas attention au développement de votre être. Votre être vient de Dieu. Bon, alors, la psychologie, c'est moi-même comme vivant et pouvant me développer selon mes intentions. Et le psychologue verra si je me développe vraiment selon mes intentions ou s'il y a des obstacles. Le psychologue est très attentif aux obstacles. C'est à cause des obstacles de votre vie que vous voyez un psychologue. Je n'arrive plus à dormir. Ben, il y a un obstacle. Normalement, le vivant, quand il est bien portant, il arrive à se détendre suffisamment pour dormir. Mais des êtres qui sont trop tendus n'arrivent plus à se détendre. Et donc, n'arrivent plus à dormir. Alors, le psychologue se développe, la psychologie s'est développée énormément, parce que c'est pas ancien la psychologie. Hein. Aristote ne parle pas de la psychologie. La psychologie s'est développée énormément ces derniers temps. Et on a eu des psychologues comme Freud, qui veulent tout expliquer, et expliquer ce qu'il y a de plus radical en nous, par le point de vue des obstacles que nous pouvons mettre, des obstacles que nous suscitons, des obstacles qui sont vrais. La psychologie va essayer de déterminer le développement normal d'un être. Alors, voyez la limite. C'est que pour savoir le développement normal de l'homme, il faut connaître la fin de l'homme. Je suis créé, pourquoi ? Pourquoi suis-je là au monde ? Quelle est ma finalité ? Ma finalité au point de vue de l'intelligence, au point de vue de mon cœur. Alors, c'est là où je vois les limites de la psychologie. La psychologie ne peut pas toucher la finalité. Elle touche toujours ce qui vient contrarier. Et ce qui contrarie ne fait pas découvrir ce qui est la fin. Indirectement, elle aide. Puisque je peux enlever ces obstacles et je retrouve quelque chose de spontané. Mais est-ce que le spontané, est-ce que c'est la fin de l'homme ? Et c'est là où je vois tout de suite les limites de la psychologie. Ma fin n'est pas dans ma spontanéité. Ma fin, elle est dans ma conscience. Je choisis telle route, telle finalité. Je l'ai choisie. Et je ne choisis pas là où je serai le plus spontané. Peut-être, au point de vue éducatif, on choisira là où j'ai la plus grande spontanéité. Mais ce n'est pas un choix humain, ça. C'est un choix qui permet une facilité plus grande. J'ai beaucoup de facilité là-dedans. Dans un tel domaine, c'est beaucoup de facilité. Je ne choisis peut-être pas nécessairement ça. J'ai beaucoup de facilité en mathématiques. Est-ce que je vais nécessairement choisir une carrière mathématique ? Beaucoup, beaucoup. Quand on fait les examens aujourd'hui à des jeunes pour voir dans quel domaine ils ont de plus grandes facilités. Puis on leur dit, ah, optez pour ça. Alors on va vers une civilisation uniquement de facilité. On fera des êtres très habiles, qui ont une très grande facilité, et un développement très grand sans cette facilité, mais ce n'est pas un choix humain. La facilité ne fait pas partie de ma finalité. Elle fait plutôt partie de mes caprices. Je choisis ce qui est plus facile. Faites l'analyse de vos choix. Quand vous choisissez quelque chose qui est plus facile, c'est... Alors, on va vers une civilisation dont la finalité sera la facilité. C'est très, très curieux de voir ça. La finalité, la fin, c'est le bien. Et le bien peut être très dur à acquérir. Si j'ai un tempérament très indépendant, j'aurai beaucoup de peine à me soumettre à quelqu'un qui est mon aîné, qui a plus d'expérience que moi, et qui peut éviter que je prenne des fausses routes. Donc, ce n'est pas la facilité qui me permet d'être vertueux et d'atteindre ma fin. La facilité joue énormément au plan de vue psychologique. Et c'est pour ça que quand la psychologie domine, on va vers une humanité qui n'aura plus aucune force, qui sera d'une extraordinaire fragilité et qui ne pourra plus que réaliser ce qui est facile, ce qui n'implique pas de difficultés. On a tous des domaines où on a plus de difficultés que dans d'autres domaines. Et quelquefois, où on a plus de difficultés, c'est quelque chose de meilleur. Pas nécessairement. L'éducation qui consiste à apprendre toujours le plus difficile n'est pas une bonne éducation. Mais l'éducation qui consiste à apprendre toujours ce qui est le plus facile n'est pas une bonne éducation. On doit s'éduquer en vue d'une fin, d'un bien, ce qui pour moi est mon bien. Mon bien, c'est la sainteté. Si je suis chrétien, mon bien, c'est la sainteté. Mais la sainteté, elle me mènera quelquefois dans des sentiers très très difficiles. Parce que la sainteté exige l'humilité, exige la petitesse. Ce n'est pas toujours moi, moi. Vous voyez, la psychologie n'a pas comme critère premier le bien et le mal. La psychologie a comme critère premier ce qui est facile, ce qui est difficile. Alors, un bon psychologue chrétien s'intéressera à facile et difficile, mais au-dessus de cela, il y a la distinction du bien et du mal. Et ça, la distinction du bien et du mal fait partie de la morale et donc de la philosophie, de l'éthique. Vous voyez ? Alors, que la psychologie soit au service de l'éducation, très bien, au service, mais elle n'a pas le dernier mot. Quand la psychologie a le dernier mot, c'est catastrophique. Vous vous égarez nécessairement. Donc, vous voyez, je reprends. Quelle différence peut-on faire entre l'autonomie substantielle de la personne et son autonomie psychologique. Son autonomie psychologique, c'est quand il n'y a pas d'obstacle. Je suis autonome de faire ça, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a personne qui vient à ma rencontre. Et l'autonomie de la substance, c'est de voir que la substance se dirige, est ordonnée à la fin, à mon bien. Je suis autonome dans la mesure exacte, métaphysiquement, dans la mesure exacte où je cherche ma finalité. Je suis autonome par rapport à tout ce qui n'est pas ma finalité. J'ai opté pour la vie religieuse. Donc je suis autonome à l'égard des richesses, puisque j'ai pris la pauvreté comme règle de vie. Donc je suis autonome. Alors que si je n'avais pas pris cette liberté, ces choix, j'aurais été dépendant constamment de toutes les nouveautés qui facilitent ma vie. Vous voyez, je crée moi-même mon champ d'autonomie en fonction de la fin que je recherche, au point de vue métaphysique. Hein. Je cherche une fin, alors si je cherche une fin très élevée, c'est-à-dire la sainteté, je suis autonome à l'égard de tout ce qui n'est pas ma sainteté. Tandis que psychologiquement, mon autonomie est très limitée. Elle est très limitée puisque j'ai tout mon développement qui va dans un sens précis et qui par le fait même me détermine. Et donc, tout ce qui n'est pas dans cette détermination devient un obstacle.